Les colloques du Collège de France.
Alors, merci à Raja Subi Altamimi d'être là et de venir nous parler justement de la Babel au XXe siècle de Michel Butor. Ce qui est aussi très beau, c'est qu'effectivement, vous arrivez d'une autre langue, d'une autre culture, l'Irak, Bagdad. Il se trouve que sans le savoir, j'ai cité ce matin le poème, les poèmes, il y en a plusieurs, de Michel Butor sur Bagdad au moment des bombardements et de la guerre. J'ajoute que vous êtes journaliste, vous êtes traductrice, vous avez enseigné et donc vous avez notamment écrit ce livre qui était votre thèse, je crois, Babel au XXe siècle, le dialogue des cultures dans l'œuvre de Michel Butor. Donc merci de nous ouvrir cette fois-ci une lecture depuis l'autre, cet autre dont Michel rêve de s'approcher sans jamais le blesser ni le coloniser. Donc, je rappelle votre titre, je crois que c'est celui-là plus ou moins, « Butor à la lumière de Babel ».
Merci, Mireille. Bonjour à tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement l'organisateur de ce colloque, M. Carlo Rossola, pour cette invitation. C'est un honneur profond, mais aussi...
Le micro plus proche.
Ah, pardon. Oui, ben, je m'approche. Ok, je reprends. Mesdames, messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement l'organisateur de ce colloque, M. Carlo Rossola, pour cette invitation. C'est un honneur profond, mais aussi une joie sincère de pouvoir contribuer à cet hommage rendu à Michel Butor dans l'œuvre continue de nous interpeller et de nous rassembler. Avant d'aborder l'œuvre de Butor, permettez-moi de revenir un instant sur le mythe de Babel lui-même. Il s'agit d'un épisode court mais fondamental du livre de la Genèse. Le texte raconte comment les hommes parlant une seule langue décidèrent de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Par ce geste, ils voulaient s'unir et se rendre puissants. Mais Dieu, voyant cette entreprise comme une forme d'orgueil et de fermeture, confondent leur langage et les dispersent sur toute la surface de la terre. Longtemps, on a lu ce passage comme un châtiment. La diversité des langues et la dispersion de l'humanité auraient marqué la punition de l'ambition humaine. Pourtant, une autre lecture est possible, et c'est celle de Michel Butor à sa manière à incarner. Car si Dieu disperse les hommes, c'est aussi pour les obliger à se confronter à la différence, à intervenir des moyens nouveaux de se comprendre, à traduire, à écouter. La pluralité devient alors non pas une perte, mais une promesse, celle du dialogue, de la création, de la rencontre. C'est ce renversement de sens, cette vision d'une Babel heureuse que je voudrais explorer à travers l'œuvre de Butor. C'est de ce lien entre Butor et le mythe de Babel qu'est né en 2013 mon livre « Babel au XXe siècle, le dialogue des cultures » dans l'œuvre de Michel Butor, précédé et honoré d'un poème inédit que Butor a eu la générosité d'écrire pour moi. Ce livre est né d'une longue recherche, une thèse menée avec passion et de plusieurs années de travail consacré à comprendre comment, à travers l'écriture, Butor réinvente le mythe de Babel. C'était une aventure intellectuelle, mais aussi humaine, nourrie d'archives, de correspondances, de voyages et surtout d'une rencontre décisive avec l'auteur. Mon intervention aujourd'hui suit d'ailleurs le parcours même de ce livre. J'aimerais vous proposer un parcours en trois étapes. D'abord, revenir au mythe biblique de Babel pour comprendre comment Butor le relie et s'en inspire. Ensuite, nous plonger dans l'emploi du temps, où ce paradoxe de Babel prend chair dans l'expérience de la ville de Blaston. Et enfin, élargir la réflexion à l'ensemble de son œuvre en s'arrêtant sur son rapport au lieu, au voyage et au dialogue interculturel qui prolonge et transforme le motif babylien. Donc, à l'origine de mon ouvrage, il y a 12 scènes fortes et une rencontre. Toutes trois m'ont beaucoup marquée. La première scène est une blessure. Je l'ai ressentie lorsque j'ai vu à la télévision en 2003 une cérémonie militaire dans le grand théâtre de Babylone en Irak. Les troupes américaines occupant alors mon pays transféraient à leur allié polonais le contrôle de la ville, Babylone. La cité plusieurs fois millénaire a une place particulière dans notre orgueil national, mais elle a aussi une place de choix dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a été la ville antique des jardins suspendus, considérée comme une des sept merveilles du monde antique. On en montre encore les vestiges, un peu à l'écart des murailles, des fondations dont on est sûr que ce sont celles de la tour de Babel. Mais cette image infiniment triste de Babylone enchaînée a aussitôt éveillé en moi le souvenir de notre scène qui se déroulait dans le même théâtre. Comme j'étais alors journaliste, j'y ai assisté plusieurs fois. C'était celle de l'ouverture du festival annuel de Babel Babylone. Pour répondre à la dureté de l'embargo auquel mon pays était soumis entre 1990 et 2003, juste avant l'invasion, des troupes artistiques venues de Russie et de Syrie, de Chine et de Suisse, de Turquie, de Jordanie, de Tunisie, d'autres pays encore, mais pas de tous. Présenter des spectacles ou dialoguer leurs diverses cultures, c'était une scène d'espoir en totale opposition avec la précédente, celle de Babel cosmopolite, de Babylone l'effervescente, dont on disait qu'elle ne mourrait jamais. Je crois que c'est la confrontation entre ces deux scènes, la Babylone blessée et la Babylone célébrée, qui m'a fait décider de travailler sur Babel au XXe siècle, dont la première américaine et polonaise étaient interchangeables dans une même occupation et négation de l'autre, dont la seconde, les différences s'affirmaient et devenaient une fête. À toutes deux, elles rejouaient donc le très ancien récit fondateur de la tour de Babel. Cela pouvait paraître paradoxal puisque l'épisode biblique présente comme un châtiment la décision divine d'introduire la diversité linguistique et culturelle parmi les hommes. Et pourtant, peut-être parce que le XXe siècle a été aussi celui des pires hégémonies, jamais la diversité en tant que telle n'a été autant valorisée dans la création artistique et la pensée philosophique contemporaine. Elles y perçoivent toutes deux la chance d'épanouissement des hommes. Oui, il m'a semblé qu'il y avait bien pour notre conscience aujourd'hui un paradoxe de Babel. Les habitants de la ville voulaient se réfugier dans une ville unique et se servir d'une seule langue pour s'exprimer. Dans une telle conception, aucune place n'est laissée au dialogue avec l'autre et avec l'étranger. C'est le risque à redouter Dieu, l'enfermement sur soi, la rigidité de l'identité, la langue unique, l'élimination des différences et la persécution de ceux et celles qui ne sont pas conformes à la norme par leur peau, leur langue ou leur opinion. Il est alors intervenu pour briser le totalitarisme de la pensée unique. Le paradoxe de Babel, au fond, c'est que la punition devient une bénédiction. Et c'est là qu'est survenue la rencontre avec Michel Butor. Une rencontre d'abord par les livres, ou puis plus tard en personne. Des rencontres toujours riches, intenses, où chaque échange aurait de nouvelles perspectives, avec lui la conversation devenait exploration, le dialogue devenait découverte. Je dois avouer qu'au départ, Butor m'intimidait. Un accès souvent difficile à des livres qui paraissaient compliqués, puisque dans leur organisation même et une édition en cours des œuvres complètes qui recensait près de 1500 titres et annonçait 12 gros volumes. Et pourtant, elle m'attirait aussi parce que je pressentais que la diversité qui comptait tant à mes yeux était au foyer de cette œuvre et cela de plusieurs manières ou plusieurs niveaux. Elle offre d'abord une étonnante diversité générique, romans, récits de voyage, critiques, livres d'art, etc. Et je découvrais aussi au fil d'une première exploration de ces pages qu'elle s'intéressait surtout à la découverte, à l'expression et à l'écoute des différences culturelles, historiques, linguistiques, artistiques. Elle en faisait même un principe de création. Et surtout, elle rejoignait mon interrogation sur Babel et me permettait de l'approfondir en me faisant apparaître plus nettement les deux versants de la diversité. Le premier versant, la diversité comme transgression, puisque la multiplicité générique à laquelle je me heurtais s'accompagnait de plus en plus d'une porosité des frontières. Le livre d'art brouillait la conception traditionnelle du livre illustré. Le récit de voyage faisait éclater les lois du genre. L'autobiographie sortait de son cadre. Cela me semblait faire écho à la transgression initiale de l'ordre par les bâtisseurs de la tour. Le deuxième versant, la diversité comme richesse interculturelle où l'altérité devient une valeur. Valeur humaine bien sûr, mais valeur esthétique aussi, puisque toute la pensée de la modernité à laquelle Butor semblait s'y attacher se fondait sur elle. La fécondité de l'œuvre rejoignait une réflexion qui considérait comme une bénédiction pour la littérature la destruction de l'unité linguistique originelle. Et cela faisait écho au paradoxe de Babel. Pour approfondir cette lecture, j'ai voulu revenir au texte fondateur de la jeunesse. Je n'étais pas exigeante et n'avais nullement l'intention de le devenir. Mais d'une part, il me semblait que la grande diversité des traductions auxquelles avait donné lieu ce texte mythique en exprimait déjà par elle-même une des vérités ou une des leçons. Traduire et interpréter sont deux verbes dont les préfixes trans et inter disent la différence, l'interculturalité, la pluralité des codes et le passage des uns aux autres. Et d'autre part, je découvrais de nombreuses références explicites ou implicites de Butor lui-même à ce mythe originel. Donc, première partie, lecture de Babel. La première partie du livre propose donc, verset après verset, sur la base de 6 traductions ou commentaires, une lecture du texte biblique orientée de manière à en faire entendre les résonances butoriennes. Elle est un peu comme ce qui, au seuil de mon travail, relie entre eux son titre et son sous-titre. Butor à la lumière de Babel et Babel comme point de départ et fil conducteur pour l'œuvre de Butor. Et cela pour la lectrice que je suis, avec ses goûts et un profil déjà interculturel, marqué ou même par la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Mais comment, même du seul point de vue que j'avais retenu, parler d'une œuvre aussi immense et aussi variée. Tout passé en revers était exclu. Mais comment sélectionner et sur la base de quels critères? Je me suis trouvée dans une impasse méthodologique dont je suis finalement sortie en optant pour 2 directions complémentaires. L'étude approfondie d'une œuvre qui se prêtait profondément à une lecture babylienne. Donc, c'est la lecture de l'étude de l'emploi du temps. Donc, Babel dans l'emploi du temps. Dans la deuxième partie de mon livre, j'ai choisi donc d'analyser l'emploi du temps. Pourquoi ce roman plutôt que la modification qui met aussi en scène des différences culturelles? La raison en est simple. Elle était à ce que le journal de protagoniste principal, Jacques Revel, ne se contente pas de combiner les différences et les diverses figures de l'altérité. Il se construit aussi sur un parcours de héros qui met ouvertement en scène le paradoxe de Babel. Bluston, où le roman se déroule, est à la fois ville maudite et ville bénie. Elle apparaît en effet d'abord comme un espace de démesure et d'inhumanité où toute communication est impossible, qu'il s'agisse des voies urbaines nombreuses et larges mais qui égarent ou des échanges humains, systématiquement contrariés par l'obstacle de la langue, autant que par celui des coutumes. Elle est une version atrocement moderne de Babel après l'intervention punitive de Dieu. Une ville de solitude, de marginalité et d'errance. Mais ce labyrinthe est aussi ce que Revel va apprendre à lire à travers les reprises successives de ces monuments, de ces lieux et de ces mythes, et ce qui va le conduire à l'écriture. Le passage du maudit au béni se fait, comme nous le rappellent les vitraux de l'ancienne cathédrale, par l'épreuve du labyrinthe. Affronter et assumer la différence interculturelle, c'est d'abord accepter de s'y perdre, de se confronter à ce qu'elle a de violent et d'égarant. Et c'est l'écriture, la réécriture, la création comme relecture et traduction qui permettent peu à peu de s'y retrouver. Un double postulat se trouve au cœur de l'emploi du temps. D'une part, la conviction d'une absence de signification du monde qui engendre une angoisse existentielle. D'autre part, l'assurance que seule la culture peut apporter un remède à cette angoisse et que la ville peut par là même devenir une bénédiction. L'inachèvement du journal et celui de la tour vont de pair pour souligner qu'il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une ouverture qui fait place à l'altérité et à la diversité. Il faut, à la fin de l'emploi du temps, imaginer Jacques Revel heureux. C'est ce mouvement, cette troisième partie, c'est Babel des cultures. C'est ce même mouvement et cette même expérience que, hors du cadre de la fiction romanesque, j'ai voulu retracer dans ma troisième partie. J'y accorde une place de choix au rapport que Butor, grand voyageur, entretient avec les lieux, ou plus exactement avec ce qu'il a lui-même appelé le génie des lieux. Le terme désigne à la fois leur originalité et leur aptitude à construire du dialogue en se fondant sur les formes les plus diverses de l'interculturalité. Je ne pouvais d'ailleurs qu'être personnellement touché par la place originelle qui trouve sa rencontre avec le Moyen-Orient, suivie de sa découverte de la culture et de l'histoire islamique, et au-delà de son attirance par le monde méditerranéen. L'interculturel y apparaît comme ce qui dit chaque fois une histoire et qui superpose les diverses époque dans un même espace ou un même monument, histoire faite de violence puisqu'il s'agit de conquête, mais aussi de dialogue puisqu'il s'agit de reconnaissance et non d'extermination. C'est encore et toujours Babel recommencé. La place que prend la découverte de l'Amérique dans l'œuvre de Michel Butor me semble devoir être suivie ensuite de manière plus particulière, parce qu'elle opérait un tournant décisif pour la problématique qui était la mienne. Ce n'est en effet plus le temps, mais l'espace qui devient le lieu de dialogue et de l'altérité. L'Amérique a tout fait pour oublier l'extermination des Indiens et l'esclavage des Noirs. Mais l'immensité de l'espace et la diversité des nouveaux immigrés ont permis de développer une nouvelle forme originale du dialogue interculturel. J'ai tenté de mettre en valeur ces dimensions et ces divers aspects. Cette sensibilité à l'espace conduit Butor à repenser le livre lui-même. Non pas un simple témoignage, mais un lieu de rencontre. Ses ouvrages de la période américaine, ses collaborations artistiques, ses correspondances deviennent autant de laboratoires d'une co-création. Le livre se fait lieu où les différences ne s'additionnent pas, mais s'entrelacent. Au terme de ce parcours, Babel s'impose comme un symbole, refus de l'enfermement, triomphe de la diversité. Michel Butor apparaît comme celui qui part non pour rechercher l'exotisme, mais pour provoquer la rencontre. De ces rencontres naît une esthétique. une écriture en mouvement marquée par le divers et par l'inachèvement, qui épouse le monde dans son transit perpétuel. Rarement la formule de work in progress n'a été aussi juste. Et je n'oublierai jamais l'exposition consacrée à Butor en 2006 à la Bibliothèque nationale de France pour ses 80 ans. La tour de Babel s'y dressait à nouveau, non plus en briques, mais en une forêt de pages. À l'entrée de l'exposition, deux stèles restaient vierges, ouvertes à l'avenir. C'était, me semblait-il, l'image la plus juste de Babel au XXe siècle. Une tour inachevée, mais vivante. Une tour dément, un texte couché debout. Voilà ce que, grâce à Michel Butor, j'ai poursuivi bien au-delà de mes attentes, une méditation sur Babel comme symbole de l'inachèvement fertile, de l'ouverture à l'autre, de la victoire de la diversité. Et mesdames, messieurs, si je devais retenir une seule leçon de ce voyage, ce sera celui-ci. Le monde n'a pas besoin d'une langue unique, ni d'une pensée unique. Il a besoin de mille voix qui se croisent, se traduisent et se répondent. C'est dans ce mouvement que réside la véritable esprit de Butor Babel. Car Michel Butor, par sa personnalité, autant que par son œuvre, incarne lui-même ce mythe et se dresse comme un monument babylien vivant, ouvert à visiter encore et toujours. Et je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.